Quand vous lisez les Actes des Apôtres au chapitre 2, embrayez assez vite parce qu'il y a beaucoup à lire. Hein. Acte 2, hein, et vous savez que je ne cherche pas à fier un écran quand je prêche. Autrement, on va prendre l'habitude de ne plus ouvrir sa Bible. On attend, c'est comme au magasin, on consomme, plutôt que de faire son propre jardin. Mais c'est un peu ça, la différence. Et je ne critique pas ce qui est sur l'écran, parce qu'on utilise l'appareil. Mais il faut pas oublier qu'on a des mains et des yeux pour lire la Bible. Acte 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Le jour de la Pentecôte, c'est pas parce qu'il y a la Pentecôte maintenant, tous les ans, qu'il y avait une Pentecôte. C'est pas à cause des chrétiens qu'il y avait une Pentecôte. La Pentecôte n'existait pas à cause des chrétiens. La Pentecôte existe de chez les juifs depuis très très longtemps. C'est à cause des juifs qu'il y a la Pentecôte. Et ne croyons pas que tout vient de nous. Hein. Surtout pas. Le jour de la Pentecôte, c'était une fête. Pentecosta, 50 jours. Après la Pâque, 50 jours. Jésus monte au ciel après 40 jours. Il reste 10 jours, après c'est la Pentecôte. Jésus avait promis l'Esprit Saint. Alors, ça, le Pentecosta, les 50 jours sont écoulés. On va regarder dans Lévitique, chapitre 23, versets 15 à 21. Lévitique. Si quelqu'un a la page, je peux le dire aux autres, on gagnera beaucoup de temps. Enfin, il y a une table des matières, toujours, de toute façon. Lévitique 23, 15.
Page 94, 94.
Oui. J'oublie aussi, si quelqu'un, parfois des personnes dans l'église veulent s'associer à moi pour jeûner, hein, au moins deux fois par mois, quatre jours, s'ils veulent s'associer, qu'ils se présentent à moi et qu'on le fasse. Je vous garantis qu'on a des grands besoins de prière. Ça va ? Lévitique 23, les grands besoins de prière et tout ce que je vous ai cité là, Dieu bénira en fonction de l'insistance, de la fidélité dans la prière, et le jeûne fait partie du témoignage qu'on donne à Dieu pour montrer qu'on attend de manière sérieuse son intervention. Lévitique, chapitre 23, verset 15. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, donc on agitait une gerbe de blé de l'année d'avant, devant l'autel, comme ça, en chantant. Ce n'est pas parce que c'est un psychotique, hein, les psychotiques font ça, comme ça, sont comme ça. Hein? Ou les enfants traumatisés, etc., des tas de choses, souvent les gens traumatisés ont cette attitude-là. Et pratiquement, ici, ce n'est pas ça. On se présente devant Dieu en louant un petit peu, en se retournant pour que toute l'assemblée soit invitée aussi à louer.
Lévitique combien ?
Lévitique 23, 15, depuis le lendemain du sabbat. Donc le lendemain du sabbat, c'est un samedi à 18h du soir, hein, c'est fini. Et du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines. Donc il y a 7 semaines. Mais de quel sabbat s'agit-il ? Il y a 7 semaines. Hein, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Il faut qu'on comprenne de quel sabbat il s'agit. Alors, on fait une marche arrière et on va au début du chapitre 23. Première fête, c'est une fête de toutes les semaines. Ça s'appelle le Shabbat. Le sabbat. Du vendredi 18h au samedi 18h. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, tu leur diras les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de sainte convocation. » Donc on n'y va pas parce qu'il faut, parce que c'est une tradition, on y va parce que Dieu nous y invite et il est là. Sainte convocation. Une convocation qui est sainte, c'est lui qui appelle parce qu'il est saint. Et on va en sa présence parce qu'il est saint. Alors, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de sainte convocation. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Voilà la fête hebdomadaire dans le monde juif depuis Moïse. Peut-être même avant, hein. Je n'ai pas été vérifié, mais c'est peut-être vérifiable d'ailleurs. Verset 4. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, ça veut dire, mois d'avril, c'est le premier mois juif. 14, le mois s'appelle Nisan, N-I-S-A-N. 14 Nisan, 14 avril. Sachez bien que pendant plusieurs siècles, les chrétiens en Occident et en Orient ont fait la Pâque le même jour que les juifs. Ils suivaient le rythme du calendrier juif. Et puis tout d'un coup, par orgueil et par mépris vis-à-vis des juifs, à Rome et à Constantinople, on a décidé qu'on ne les suivrait plus. On a tout décalé exprès. Pour que les peuples de Dieu ne s'intéressent plus aux juifs, mais plutôt les méprisent. Ok ? N'oubliez pas ça qu'historiquement, on a beaucoup fait pour nous opposer aux juifs. Dans les grands chefs de religions orthodoxes et catholiques. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Donc du vendredi au samedi, 18h, voilà. Le 15e jour de ce mois, le lendemain donc, ce qu'on appelle nous le dimanche, sera fête des pains sans levain à l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le levain, c'est quoi? C'est simplement que dans la farine naturelle, il y a des ferments qui, si on met de l'eau, vont dégrader la farine de manière à ce qu'elle soit plus comestible, etc. Qu'elle gonfle, elle fabrique du gaz carbonique, elle fait lever le pain, elle fait des bulles. Bon, eh bien, vous ne ferez pas, parce que vous sortez d'Égypte, et je vous dirai, quand vous sortez, ce n'est pas dans 3 jours, le temps que le levain est monté, c'est quand je vous le dis, c'est tout de suite. Ça va? Donc, il n'y aura pas besoin de faire de levain, parce que je ne veux pas que vous perdiez du temps à ça. Donc, le pain azim, c'est un pain sans attente, sans calcul. C'est sous l'ordre de Dieu. Et donc, ça, quelque part, le pain azim est symbole de pureté. On ne compte plus sur soi-même, mais sur l'ordre de Dieu, le commandement de Dieu. Et ce prénom azima se retrouve chez les Turcs, chez les Marocains, et il y a peut-être des Juifs aussi qui le portent. C'est, ça veut dire tout simplement pur de toute souillure, de toute volonté humaine. Je connais quelqu'un en virton, parmi une femme turque, elle a vraiment ce caractère, très intègre avec Dieu, une musulmane, et son prénom lui convient très très bien. Le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain, l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Donc, du 14, nous voilà le 15, et il y a 7 jours. Donc, nous sommes le 21, c'est ça ? 22. Alors, le premier jour, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. On ne bosse pas. Vous fabriquerez, vous offrirez à l'Éternel, pendant 7 jours, des sacrifices consumés par le feu. Dieu consomme des victimes, agneaux, tourterelles, bœufs, etc., qui normalement nous représentent. Si on a le sens du péché et qu'on le confesse en mettant les mains dessus, les Juifs savaient que l'animal mourrait à leur place, parce que le péché mérite la mort. Ça dure pendant, donc nous voilà au 22, et c'est une loi perpétuelle à la fin du verset 14. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Donc la Pâque est suivie de 7 jours de pain azim. Ensuite, vous avez, à partir de ce moment-là, un décompte. Vous avez 7 semaines. Hein, et quand les 7 semaines sont passées, le jour d'après, le 50e jour, vous avez une fête. C'est celle-là, la Pentecôte. Ça va ? C'est au verset 16. Lévitique 23, 16. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Et puis, la description de tous les sacrifices qui sont donnés, hein, etc. Vous pouvez le lire. Hein, ça, c'est, comme j'ai peu de temps aujourd'hui, une demi-heure, c'est court. Et il faut savoir que c'est quelque chose d'extrêmement important, cette fête. Pendant lesquels on va vraiment, vraiment adorer Dieu. On lui, et on confesse ses péchés. Ça va ? Il y a d'autres fêtes pendant l'année. Elles sont après, plus après. Et regardez, au verset 23, l'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le septième mois à partir du mois d'avril, hein. Ok ? Comptez, ça fait quoi ? Alors, 14 avril, 7 mois, ça fait. On est à cheval, sur chaque fois sur un mois. Donc ça commence en octobre. Ça commence en octobre, la fête de Soukhot. Et la fête de Soukhot, c'est la fête des tabernacles. Pendant plusieurs jours, on va mettre des branches de saule, etc. On va faire une cabane dehors. Et on va chanter et danser pour se rappeler le séjour dans le désert, la libération de l'esclavage d'Égypte et l'entrée en Canaan. Donc la fête de Soukhot, c'est ça. Hein, et il faut faire attention, c'est une fête très très importante. Et regardez au verset 34. Je vais vite. Hein, je vais pas. Prenez le temps de lire tout ça. Si vous avez des questions, vous me les demandez dans les réunions en semaine. Parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera fait des tabernacles, donc des tentes, en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Ça dure 7 jours. Ça va ? Verset 42, vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Et il y a des synagogues à Paris, hein, ils ont une cour derrière la synagogue ou sur le côté, et bien ils font des cabanes et ils sont tous dedans, là, après le boulot, ils y vont et voilà. Hein ? Bon, symboliquement, ils y restent 2-3 heures, mais ce qu'il y a, à cette époque-là, ils y restaient dedans, ils n'allaient pas dans leur lit, dans la maison. C'est un peu plus radical. On a adouci les choses. Est-ce que c'est parfois bon d'adoucir les choses qui nous font plus réfléchir? Je ne sais pas. Alors, il faut que vos descendants, verset 43, sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël, après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc voilà, vous avez un topo de toutes les fêtes, vous savez ce que c'est que la Pentecôte, et c'est là que c'est le plus important. Alors, la Pentecôte, c'est le don du Saint-Esprit, évidemment. Jean chapitre 1. Pour nous, c'est la fête du Saint-Esprit, pas pour les Juifs. Enfin, les juifs messianiques ont compris, ils l'ont accepté. Et ils sont très nombreux actuellement. Jean chapitre 1, versets 29 à 34. Jean chapitre 1, verset 30, chapitre 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, donc il s'agit de Jean-Baptiste, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, le Christ qui offre sa vie pour sauver le monde, pour payer la dette du monde. Hein. Hier, j'entendais à la télévision que la Belgique, elle envoyait toujours ses plastiques. Vous savez, plusieurs centaines de milliers de tonnes de déchets plastiques et de pneus brûlés en Chine. La Chine vient de refuser. Clac. Donc, elle va sûrement refuser à la France et d'autres. Alors, ça va où ? Au Ghana, en Nigeria. Hein, ça va où? Eh bien, la Roumanie vient d'accepter, mais pourtant elle fait partie de l'Europe, donc il y aura des sanctions et ils devront un jour arrêter. Mais pour le moment, vous vous rendez compte que rien qu'un petit pays comme nous, c'est des centaines de milliers de tonnes de plastique. Moi, je dis franchement, n'allez plus faire de courses, acheter du plastique. Prenez tout dans des cartons, des papiers. Vous faites partie, si vous continuez, vous êtes dans l'iniquité. C'est les autres qui encaissent, qui respirent ça. J'ai vu un film sur Arte. En Allemagne, ils avaient mis des puces électroniques sur des vieilles télévisions et des vieux frigos, puis ils suivaient ça au satellite. Et puis ça partait, c'était dans les ports, puis c'était dans les containers, puis ça arrivait au Ghana, ça arrivait autre part, hein, en Chine, au Bangladesh. Et ils ont suivi ça, ils ont pris l'avion et été voir avec les films. Tout d'un coup, il y a une puce électronique qui était dans un frigo, elle était là, à terre, et c'était des kilomètres carrés de frigos, de tout qui brûlait dans une peste incroyable, et des gosses, des hommes, des femmes travaillaient là-dedans pour récupérer le cuivre, etc., et l'argent, des circuits électroniques, pour leur vente, pour se faire 50 à 100 euros par mois. Et pour en mourir, évidemment. Et cette fumée, et toute cette crasse qui va dans les fleuves et dans l'océan, c'est nous les fouteurs de crasse. Je voudrais bien qu'en tant que chrétien, on arrête d'acheter à tort et à travers des choses qui vont faire du mal à nos frères sur la terre et à nous-mêmes. Dieu est en colère sur ça, j'en suis certain. Quand il dit qu'il fera des nouveaux cieux et une nouvelle terre, il n'y a pas de problème. Nous sommes tous capables de saboter la terre et les cieux avec. Il y a déjà des centaines de satellites qui tournent, qui sont en miettes et qui tournent pif par boum. D'ailleurs, quand ils lancent des satellites, maintenant il faut qu'ils calculent avant de savoir où passent les déchets pour arriver à passer entre. Ça devient compliqué, même au-dessus. Et de temps en temps, vous êtes dans la nuit, vous voyez des machins qui brillent, qui redégringolent. Ce n'est pas forcément une météorite, hein. C'est un satellite qui se désintègre avec l'oxygène. Voilà. On en est là, et il faut savoir que si Jésus a donné sa vie sur la terre, c'est autant pour la création que pour les humains. La création par le Christ doit être remise à zéro, comme le cœur de l'homme doit être remis à zéro. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oui, parce que Dieu le connaît bien, ce péché. Il y a quoi pleurer. Alors, c'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, sur lui, sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. J'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Ça va ? J'ai vu et j'ai rendu témoignage. Ça lui a coûté sa tête. Ça lui a coûté sa tête. Allons voir dans Luc. C'est un peu avant Jean. Luc. Au début de Luc. Luc chapitre 3. Luc chapitre 3, verset 15. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie, il leur dit à tous, « Moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Alors, pour que ce soit clair une fois pour toutes avec le feu, allons voir dans Jérémie, chapitre 23, verset 29. Jérémie, chapitre 23, verset 29. C'est essentiel de comprendre qu'il s'agit de la parole de Dieu. Il n'y a pas de dissociation à faire entre l'œuvre de l'Esprit Saint et de la parole divine. Vous comprenez ? Il y a eu des théories depuis 80 ans qui ont dit ah, les gens qui ont accepté la parole de Dieu, ils sont sauvés, etc. Mais il faut encore qu'ils aient l'effusion du Saint-Esprit après. Et on vérifie parce qu'ils ont les dons de langue, ils tombent par terre ou ils ont des guérisons. C'est complètement faux. Si la parole de Dieu est donnée à quelqu'un qui l'accepte dans son cœur, l'Esprit Saint est avec. Et il ne peut pas accepter la parole sans l'assistance, l'autorité du Saint-Esprit. C'est le recto verso de la même pièce. Dieu donne une pièce en or et un recto verso. Parole, Esprit Saint. Chapitre 23, verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise le roc? Dieu est un feu qui fond le minerai et on retire l'or et l'argent du minerai. Dieu est comme un marteau qui brise un rocher pour en faire sortir l'eau. La vie éternelle, c'est nous les cailloux qui sont durs, il faut les briser. Et donc, quand Jésus baptise du Saint-Esprit et de feu, c'est du Saint-Esprit et de sa parole qui nous purifie, qui a l'autorité de nous purifier. et la puissance. Ça va ? C'est très important. Psaume 50, verset 3. Vous savez très bien que tôt ou tard, on tombera sur tous les psaumes avec Michael, parce qu'il est tenace, une fois qu'il est en route sur quelque chose, boum, eh bien, on connaîtra, on aura lu tous les psaumes avec lui. Psaume 50, verset 3. Je vais lire à partir du verset 1. Psaume 50, verset 1 à 3. Dieu, Dieu l'Éternel parle, convoque la terre depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Décompte, l'outil sacré de Dieu, c'est la parole. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. Vous avez vu le thème que Michael a abordé dans le psaume 45. Vous le voyez ici. Alors, il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Agneau, tourterelle ? Non, pas du tout. Hein. Sacrifice de Christ, les amis. Hein. Sacrifice de Christ, il n'y en a qu'un qui permet la vie éternelle. Ça va ? Alors, devant lui est un feu dévorant. Toute action de Dieu est purificatrice. Toute action de Dieu détruit le péché. Toute action de Dieu met en place une vie sainte. Ça, c'est évident. C'est pour ça que le Saint-Esprit est Dieu lui-même pour faire cette œuvre-là. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Mais pourquoi donc faut-il qu'on soit purifié ? On est quand même des braves gens, on rend service à nos voisins, on a un bon cœur. J'ai toujours été porté à être gentil avec tout le monde, j'ai toujours rendu service. Oh, j'ai pardonné facilement, même à ceux qui m'ont fait beaucoup de mal. Taratata, pouette, pouette. 1 Corinthiens chapitre 2. On ne peut pas se reposer sur des mérites personnels. Bien sûr qu'il y a des gens qui ont un bon cœur, ils sont serviables. Il y a des athées formidables, parfois avec un comportement meilleur que des chrétiens. Il y a des gens très braves chez les musulmans, chez les bouddhistes, etc. Il n'y a pas de problème. Dieu a donné la pluie, le soleil, le vent et l'eau à tout le monde. Il a donné des grâces naturelles à tout le monde. À chacun de les choisir. Il y a des gens qui sont bons parce qu'ils ont choisi d'être bons, parce qu'ils ont écouté leur cœur, parce que Dieu a donné une conscience. Romains chapitre 2, qui permet de juger le bien et le mal. Ok ? Mais ce qu'il y a, ce n'est pas ça qui sauve. Même quelqu'un qui a une conscience positive, ce n'est pas ça qui donne la vie éternelle. Parce qu'il y a une puissance en nous, qui s'appelle le péché, qui est venu d'Adam et Ève, qui n'a rien à voir avec notre libre vouloir. Elle est plus forte que tout. Elle nous contredit, elle nous entraîne au mal, à la séparation éternelle d'avec Dieu. Alors, 1 Corinthiens 2, 14, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. C'est clair. Avant d'avoir reçu le Saint-Esprit, je suis parmi les animaux. Regardez bien ce qui se passe sur la terre. Regardez bien. Ici, dans notre région, dès que c'est le mois de mai, le mois de juin, finis les examens, etc. Les javas, les guindailles, tout le reste, ça rebelote. Et maintenant, je suis tombé sur un bouquin là, que personne ne voulait, sur les magies en monde rural. En monde rural. Eh bien, ici, hein, malgré qu'il y a la télévision et tout ça, c'est un monde rural. Tous les villages ont leur médium. Hypnotiseur, magnétiseur, etc. Si ce n'est pas un, c'est trois ou quatre. Rebelote, ça recommence. Et ça ne finira jamais tant que le Seigneur Jésus n'a pas donné l'Esprit Saint à quelqu'un. Quelqu'un arrête par la puissance du Saint-Esprit, le feu qui purifie. Comprenez bien, il n'y a pas de salut sans l'œuvre de l'Esprit Saint et de l'autorité de Dieu qui purifie par le feu de sa parole. On peut rendre grâce parce que plusieurs d'entre nous ont été touchés par le Saint-Esprit et par le feu de sa parole. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Il y a une opposition. Car elles sont folies pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, il y a un fossé entre quelqu'un qui est né de nouveau et pas. Alors, quelqu'un qui me dit « Je suis croyant, j'ai donné ma vie à Jésus. » Conversation, etc. Avec le samedeur, ça a été un gros problème parce qu'il évangélisait. Et pratiquement, maintenant, ça y est, il se pose encore une question. Et il est devenu prudent. Je dis, pour moi, fais gaffe. Je vais aller voir la personne avec toi, et puis je sors, je réfléchis une journée, je fais des notes, je fais une synthèse de tout ce que j'ai vu et entendu, je prie, et puis je lui dis, la personne n'est pas née de nouveau. Fais gaffe. Oui, je m'en doutais bien, etc. Il faut un radar. C'est pas parce que quelqu'un dit qu'il a donné sa vie à Jésus qu'il est né de nouveau. S'il est né de nouveau, il est sauvé. S'il n'est pas né de nouveau, il n'est pas sauvé. Il a beau dire tout ce qu'il veut. Il est toujours dans l'être, le registre animal. 1 Corinthiens 15, verset 46. 1 Corinthiens 15, verset 46. Ce qui est spirituel n'est pas le premier. Ah tiens, eh bien ça veut dire que quand nous naissons de papa et maman, même que nous aurions été à l'église, hein, pensez à Élie, Lémuel, d'autres, eh bien non, ça va pas comme ça. Hein. C'est d'abord ce qui est premier, c'est animal. Et ils vont suivre leurs instincts, ils vont suivre leurs pulsions, les convoitises de leur chair. Ils vont être deux facteurs souvent se retrouvent chez les personnes qui n'ont pas reçu l'Esprit Saint. La prédominance de la peur, de l'intérêt, hein? L'intérêt, oui, l'intérêt sous toutes ses formes, l'intérêt de se faire reconnaître, l'intérêt de l'argent, l'intérêt des biens, etc. Et la crainte, la peur, l'angoisse, sous toutes ses formes. Quand ça, ces choses-là sont balayées, c'est déjà l'indication que peut-être l'œuvre de l'Esprit Saint est là. Mais il y a d'autres choses pour voir si l'œuvre de l'Esprit Saint est là. Il y a des signes pour discerner. Ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ah oui, depuis le péché d'Adam et Ève, hein. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Paf. Tout ce qui vient de Dieu d'en haut est transformé, et même sur terre, déjà, s'il est né de nouveau, il est céleste. Et il reçoit en lui la puissance du Saint-Esprit pour sa résurrection, pour sa vie chrétienne, pour l'amour de Dieu, pour l'amour de la parole de Dieu. Pour l'amour de Dieu, pour l'amour de la parole de Dieu. Et pour combattre ses convoitises, combattre le péché. Avec victoire, même s'il y a parfois des marches arrière. Là, l'Esprit Saint, c'est extrêmement important. Prenons Jean maintenant. Jean, ce brave homme, Nicodème, au chapitre 3, ce brave homme qui aime Jésus, qui sans doute va régulièrement l'écouter. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent venir dans les salles de culte qui sont comme des Nicodèmes. Hein. Et je ne critique pas. Et qu'on fait des réunions sans les Nicodèmes. Mais le savent-ils? Jésus, lui, en tout cas, va mettre le doigt dessus. Jean chapitre 3. Il y eut un homme d'entre les pharisiens, donc c'est une secte qui est dominante en Israël à cette époque-là, avec l'aide des Hérodes et des Romains, évidemment. Parce que normalement, il ne devrait pas avoir autorité. Nommé Nicodème, un chef des Juifs. Et qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. » Donc un enseignant. Jean chapitre 3.
Hein? 8:107.
Oui. Alors, « Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu est avec lui. » Donc, lui, il est vraiment interpellé, parce qu'il voit des démons qui sont expulsés, il voit des guérisons, il voit la tempête sur la mer qui s'arrête, etc. Nicodème est... Il est berlué, il est consterné. Parce que c'est pas un petit prophète, le Jésus, là. il y a quelque chose d'autre. Il se pose des questions. Donc il va le trouver de nuit, forcément, parce que ses copains, s'ils le voyaient avec Jésus, ça y est, toute sa famille est mise à part, ils ne rentrent plus dans le temple non plus. Fini son rôle sacerdotal. Alors, Jésus lui dit, verset 3, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Quand quelqu'un naît de nouveau, il voit le royaume de Dieu. C'est-à-dire, de son vivant, il voit la présence de Dieu. Il voit les choses qui sont bonnes et mauvaises comme Dieu les voit. Il voit ce qui vient de Dieu, il voit ce qui vient du péché, qui vient du diable ou du monde. Donc, c'est clair, il y a une vision spirituelle qui est donnée par l'Esprit Saint. Et tant qu'on n'a pas reçu l'Esprit Saint, on est comme une taupe. J'aimais bien tout à l'heure quand il a commencé, Michael a commencé le psaume 45, j'en suis un rigolo, moi j'aime bien inventer des blagues, à la motte. Et j'ai pensé à toutes les taupes qui voient arriver les chats et qui courent. Vite, à la motte, à la motte. Elles courent vers les taupes, et vers les mottes pour rentrer dans leur galerie. À la motte. Je suis un peu fou de temps en temps, moi ça me distrait, ça me relaxe. Il vaut mieux qu'une heure de télévision tout d'un coup, à la motte. Toutes les taupes, je vois nos chats qui arrivent et toutes les taupes qui se sauvent. Je suis un peu rigolo des fois, tout seul. Ou avec les autres, hein, avec Tanguy, j'aime bien de... Alors, pratiquement, il est certain que Jésus vient de le remettre à sa place. Parce que c'est un homme religieux sincère et il n'arrive plus à comprendre. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Là, il est complètement dans le cambouis, là, la confiture. Hein. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, eau, c'est la parole. Hein. Moi, j'ai étudié au séminaire, c'était le baptême des enfants, etc. C'est faux. Hein. L'eau, c'est la parole. Et d'esprit. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair, donc qui est humain, est chair, est humain. Ce qui est né de l'esprit, est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc nous avons deux naissances. Et ici dans la salle, il y a des personnes qui ont eu deux naissances. Une, en sortant du ventre de la maman. Deux, en recevant le Christ, Jésus, et l'autorité de sa parole, de son Saint-Esprit. Deuxième naissance. Et dans la salle, il y en a d'autres, l'autorité de la parole et du Saint-Esprit est en bataille, n'est pas encore accepté. Il n'y a encore eu qu'une naissance. La deuxième naissance va-t-elle venir? C'est ce qu'il a fait avec Nicodème. Je suis obligé de un peu préciser les choses comme ça. Jésus l'a fait avec Nicodème, qui était fort attaché à ses traditions. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle, il veut. Donc, le vent, c'est pneuma, c'est l'esprit divin. Il pousse, et il pousse les vents, les tempêtes, les montagnes, il pousse les bateaux là où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il n'est pas humain, il n'est pas mondain, il vient de Dieu, du Saint-Esprit. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Il arrive sur lui une puissance qui n'est pas naturelle, qui n'est pas normale, qui n'est pas animale. C'est un don de Dieu, le don du Saint-Esprit. Ça, c'est extrêmement important, les amis. C'est primordial dans la vie. Alors, vous voyez bien, quand Jésus est au bord du puits avec la Samaritaine, chapitre 4, Jésus dit, en Jean 4, au verset 13 et suivant, Jésus répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Ben oui, le puits fait peut-être 80 mètres ou 60 mètres. J'ai vu des puits très profonds au Bénin. Hein. Ils étaient au-dessus. Ils ont creusé tout à la main, hein, les gaillards. Incroyable la force et la dextérité de ces gens-là. À 4, j'ai vu un puits de 80 mètres creusé sur une semaine. Parfaitement cylindrique, toute la terre... Et pendant qu'elle remontait, ils avaient fabriqué les briques. À la fin de la semaine, il y avait une montagne de briques, ils avaient pris sa brique, ils avaient fait le puits, ils avaient fait les briques. Et hop, parti ou pas. Et quand on vient de me dire que les Africains sont paresseux, franchement, il faudra mettre des rallonges pour les suivre. Alors, nous voyons bien que Jésus dit quelque chose à cette femme qui est primordiale. Verset 13, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Il s'agit du Saint-Esprit. Donc le mot « eau » représente le Saint-Esprit. Et pas comme moi j'avais pris au séminaire, l'eau du baptême sur la tête des enfants. C'est le Saint-Esprit. Les amis, il faut quand même retourner à la vérité biblique. Et allons un peu plus loin dans l'épître, dans Jean, chapitre 6, verset 63. 6:63, c'est l'Esprit qui vivifie, qui donne la vie. La chair ne sert de rien, l'humain ne sert à rien. Rappelez-vous ce que Paul a dit. Ce qui est premier, c'est animal, le deuxième, c'est spirituel. Hein ? Dans deux passages de 1 Corinthiens 15, au chapitre 2 et au chapitre 15. Et pratiquement ici, c'est Jésus qui l'a enseigné. La chair ne sert de rien, l'humain ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit-vie. Nous voyons bien que c'est par la parole de Christ qu'est donné l'Esprit-Saint et la vie éternelle. C'est clair là. Il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Ben oui, ils tiennent à leur tradition et pas au renouvellement spirituel donné par Christ. Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui ne croirait. Il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Donc, le Père a l'autorité d'amener quelqu'un à Jésus pour qu'il reçoive l'Esprit Saint, la vie éternelle. Ce n'est donc pas un vouloir humain qui nous sauve, ce n'est pas un rite humain, ce n'est pas un rite ecclésiastique, ni sacrement, ni rien du tout. C'est un don divin. Prenons Jean chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, donc c'est Pâques, Jésus se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Il s'agit de la soif du Saint-Esprit. Ce n'est pas pour aller acheter un coca au bar d'à côté, au distributeur. « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, mis à la croix pour nos péchés et ressuscité et élevé au ciel. Donc l'Esprit Saint est le résultat de l'œuvre de Christ à la croix, de son sacrifice parfait. Tout ça c'est important, très important, et nous prenons Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. À bientôt. C'est un jeudi, je ne sais pas.
À jeudi.
Oui, au revoir. Hein. Bonjour à tout le monde là-bas.
Au revoir, merci.
Éphésiens 2, verset 1 à 3. D'abord le bilan, puisque Paul a dit dans 1 Corinthiens 2, 14, que le règne animal est là avant. Mais regardons, il le décrit. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, donc en conformité avec tout le monde, selon le prince de la puissance de l'air, donc Satan, de l'esprit qui agit maintenant dans un fils de rébellion. » Donc un esprit mauvais, rebelle à Dieu, qui agit et qui pousse les gens à être rebelles à Dieu.
Éphésiens 2, 1 à 3, tandis,
nous tous aussi, nous étions de leur nombre, alors qu'il était religieux, lui, qu'il avait étudié la Torah, qu'il avait fait une bonne formation. Il se met dans l'eau. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair, donc de l'humain, et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Donc les volontés de l'humain, de la chair, et de nos pensées, ça veut dire quoi ? Ben, souvent, on pense que telle chose est bonne, etc. On fait des choix pour la profession, pour le conjoint, pour toutes sortes de choses, pour un achat. Et on pense que notre pensée est bonne. On pense qu'on a bien réfléchi. Ben, écoutez bien, hein, les volontés de nos pensées, Bernique, ici, un bilan zéro. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, conscientes et inconscientes, nous a rendu la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc quelqu'un qui accepte le sacrifice de Jésus, il accepte aussi sa résurrection. C'est l'Esprit Saint qui a ressuscité Jésus, qui l'a fait sortir du tombeau et l'a élevé dans la gloire. Donc, quelqu'un qui croit en Jésus et qui accepte l'autorité de la présence de Jésus dans sa vie est sous la puissance du Saint-Esprit qui un jour le fera sortir du tombeau. Mais il est sous la puissance du Saint-Esprit qui va l'aimer plus que lui ne s'aime. Nous avons souvent des tendances destructrices en nous, parfois qu'on ignore. Et il va nous aimer plus que nous nous aimons, il va nous apprendre à nous aimer, mais comme Dieu nous aime, et à aimer les autres comme Dieu nous aime, les aime. Et il va nous apprendre à agir autrement, par amour des autres, par amour de soi-même, par amour de Dieu. L'Esprit Saint conduit dans l'amour, dans la vérité. Alors, vous voyez bien, vous êtes sauvés par la grâce, et pas afin que personne ne se glorifie, c'est mis clairement. Là, regardons le verset 11 et 12. Autrefois, vous, autrefois, païens dans l'humain, en chair, appelés incirconcis, par ceux qu'on appelle circoncis, donc juifs, non-juifs, hein, et qui le sont dans l'humanité par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances en promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Aux alliances en promesse, c'est quoi? C'est Genèse 6, c'est quand Dieu parle à Abraham, il dit « Ta postérité sera aussi nombreuse que les grains de sable au bord de la mer, que les étoiles dans le ciel. » Galates chapitre 3, en Christ. Pour être de la postérité d'Abraham, c'est en Christ. Galates chapitre 3. Mais si je suis en Christ, si je suis dans l'œuvre de Christ, par que le Christ, pas par moi, il y a quelque chose qui m'est donné. Je deviens citoyen, bien sûr, hein, en Israël, verset 12, l'Israël spirituel. Je trouve les alliances, les promesses, je trouve l'espérance, regardez au verset 12. Et au verset 13, je suis rapproché de Dieu par le sang de Christ. Je ne me rapproche pas de Dieu par la méditation transcendantale, par le yoga, par les énergies positives. Je ne me rapproche de rien du tout que de moi-même. On est rapproché de Dieu par le sang de Christ. Hein? Il est notre paix, parce qu'il a renversé le mur de la séparation entre Dieu et moi. Ok ? Alors je vais un peu plus loin. Verset 18. Par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père. Alors, regardez bien ce qui est mis.
Dans un même.
Ah. Donc, il y a une astuce qu'il faut bien comprendre. Ah oui, je crois en Jésus-Christ. Je crois en Jésus-Christ. Moi, j'ai seul dernièrement avec une jeune femme ici. Elle a affirmé ça à sa sœur, etc. Sa sœur avait prié avec elle. Elle est très généreuse, sa sœur. Elle est très gentille. Elle a voulu amener sa sœur à Christ. Oui, elle a accepté Christ, oui, Jésus. Donc, je dis, je peux la voir. 2 heures ici. Mais pas dans l'esprit. Accepter Jésus là, pour tromper sa sœur, tromper les autres. Si possible, tromper Dieu avec. Ça ne marche pas. Dans un même esprit, nous avons un libre accès auprès de Dieu. Oui, la porte est ouverte. Mais l'Esprit Saint est-il là, dans ma vie? Est-ce que je pense que je vais passer? Parce que la porte est ouverte, parce que Christ a payé pour moi. La porte est ouverte, je rentre comme je suis. Dans un même esprit. J'ai analysé cette nuit, j'ai été couché tard. Même esprit, ça veut dire un esprit de toute l'Église. L'Esprit Saint qui rassemble les saints. Les sauvés, ceux qui ont reçu l'Esprit Saint, le même esprit, c'est l'esprit le même dans tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Alors, Éphésiens 4. Éphésiens 4. Verset 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. On remarque que ceux qui ont l'Esprit Saint ont la paix. Une paix profonde. Il y a un seul corps, un seul esprit. Comme vous aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Qu'en serait-il qu'au fur et à mesure des siècles, on a d'autres formes de baptême? On contredit la parole alors. Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Ok? Un seul esprit, une seule vocation, une seule foi, un seul Dieu est Père. C'est quand même clair, je pense. Nous avons un libre accès, oui. Un libre accès, évidemment. Mais, quand nous avons l'accès, si nous ne sommes pas changés, ça ne va pas. Luc 11, ça ne va pas. On ne peut pas rentrer sans être renouvelé par l'Esprit Saint. C'est pour ça que les prédications où on demande à lever la main, à s'avancer, etc., c'est très dangereux. C'est peut-être bien dans certains cas, parce que les gens réellement ont tellement souffert, ils ont tellement approfondi leur vie, par la souffrance, par toutes sortes de choses, qu'ils sont prêts à lever la main. Mais il y a des autres. Ils font ça. Hein. Ou peindre la girafe sur une escabelle, c'est la même chose. Luc 11. Verset 13. Vous vous rappelez de la parabole où Jésus dit qu'un père, hein, même qui est méchant, ne donne pas une pierre à la place d'un pain à ses enfants. Il demande un œuf, il ne lui donne pas un serpent. Rappelez ça. Oui, alors Dieu. Luc 11, 13. Si donc méchant comme vous l'êtes. Donc Jésus nous catalogue de méchants. Tant qu'on n'a pas l'Esprit Saint, même si quelqu'un a l'air bien gentil, on est catalogué par Jésus dans les méchants et les insensés. Pourquoi ? Parce que nous voudrons rentrer dans le ciel comme nous sommes, avec quelques améliorations, un peu de poudre de riz, un paraître un peu différent, mais le fond du cœur n'est pas changé. Donc nous sommes méchants. Celui qui est sans le Saint-Esprit est déclaré méchant aux yeux de Dieu. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? Donc, quand on est convaincu que Jésus est mort sur la croix pour nous, qu'il a donné sa vie pour nous, que nous l'acceptons dans notre cœur, nous savons qu'il est ressuscité par la puissance du Saint-Esprit, est-ce que je demande à être complètement transformé par le Saint-Esprit ? Ou je m'arrange pour rester ce que je suis ? Ça veut dire, la porte est ouverte, le libre accès, mais je n'ai pas forcément le droit de rentrer. Il n'y a que ceux qui ont reçu l'Esprit Saint qui ont le droit de rentrer. Hébreux 10. C'est pour ça que quand vous avez en face de vous quelqu'un, quand vous rencontrez quelqu'un, vous échangez, ayez toujours de la prudence, de l'amour pour les autres, de l'amour, beaucoup d'écoute, beaucoup d'amour, beaucoup de patience. Parce que vous faire comprendre ça, ce n'est pas facile. Il faut du temps. C'est pour ça que quand on veut gagner une âme à Christ, il faut prier, voire jeûner. Pourquoi ? Parce que le cadeau est d'en haut. Il n'est pas psychologique. Il n'est pas par nos arguments. Il vient d'en haut. C'est à Dieu de décider de le donner. Pour la personne, il y a le sacrifice de Christ à la porte ouverte, et il y a le cadeau d'en haut, le don du Saint-Esprit. Naturellement, on sait très bien que la parole peut purifier, donc il faut donner un évangile. Il faut lire un texte, il faut donner des versets. Nous ne convertirons jamais quelqu'un par nos boniments, nos paroles gentilles, notre générosité. Il faut donner des versets, il faut donner un évangile. Il faut donner quelque chose qui vient de Dieu, d'en haut. pas de nous. Hébreux 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, dans la vie divine, hein, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, puisque nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés. Les cœurs purifiés. D'une mauvaise conscience. Donc, vous vous rappelez ce que Jésus a dit ? Vous qui êtes méchants, vous pouvez demander ça d'esprit. La mauvaise conscience, c'est clair. Hein ? Et Paul, eh bien, et même tous les apôtres étaient conscients qu'ils avaient une mauvaise conscience. Conscience double, tricheur, qui triche avec Dieu. Et le corps lavé d'une eau pure, c'est pas l'eau du baptême. C'est sarxisé, c'est le corps, c'est l'être humain lavé par la parole. Apocalypse chapitre 3. La fois prochaine, je vais aller voir dans l'Ancien Testament toutes les promesses sur le don du Saint-Esprit. Toutes, enfin, une bonne partie. Comment Dieu a annoncé la venue du Saint-Esprit, comment il a promis le Esprit Saint. Parce que Paul, tous les autres le disent, nous sommes venus vous annoncer ce qui était promis. C'est l'Esprit. Mais il était promis où ? Ben, on lira l'Ancien Testament la fois prochaine. Alors, si nous sommes encore vivants en ce moment-là. Chapitre 3, verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui est la clé de David. Celui qui ouvre, personne ne fermera. Celui qui ferme, personne n'ouvrira. Apocalypse 3, 7, c'est donc le Christ qui ouvre. Qui ferme, qui a la clé. Ok ? Et le verset 8. Je connais tes œuvres. Parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. La porte est ouverte. À cause de quoi ? Pas simplement à cause du sacrifice de Christ. Oui, j'ai foi, etc. Parce que cette église a gardé la parole. Elle ne s'est pas confiée dans les puissances et les prestiges et les trucs illusoires des grandes religions. Elle a peu de puissance. Elle n'a pas recherché les méthodes de valorisation classiques. Elle a gardé la parole. Elle n'a pas renié le nom à la personne de Jésus. Alors, il est clair, la porte ne sera jamais fermée pour toi. Rendez compte. Les tests de l'activité du Saint-Esprit en nous, vous les avez dans ces versets-là. Les tests de l'activité du Saint-Esprit. Chacun a le devoir de s'examiner pour savoir si vraiment il est dans cette situation. Nous avons reçu un esprit, c'est pour être dans la vérité telle que Dieu la demande. Et pas pour rester dans notre esprit, dans nos illusoires pensées. L'Église de Christ. Dans 1 Corinthiens 12. Dans 1 Corinthiens 12, vers... Corinthiens 12, verset 3. Je vous déclare. 1 Corinthiens 12, verset 3. Je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Donc, si quelqu'un est habité de l'Esprit, il ne va jamais rejeter Jésus. S'il est habité de l'Esprit Saint, il ne va jamais rejeter Jésus. Anathème, nazis, jeté dehors. Il ne va jamais le rejeter. Il va l'aimer et s'attacher à lui. C'est un test, celui qui a reçu l'Esprit Saint et amoureux de Jésus et de sa parole. Alors, 12, verset 3. Nul ne peut dire Jésus le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc, ça veut dire quoi ici ? Si quelqu'un dit que le Seigneur Jésus est son Seigneur, il n'a pas le droit de le dire s'il n'a pas l'Esprit Saint. Il n'a pas le droit de le dire s'il n'a pas reçu l'Esprit Saint. Il doit s'abstenir. Parce qu'il offense Dieu. Et comment il offense Dieu ? Regardez dans la synagogue de Nazareth et de Capernaum, dans Marc chapitre 2 et 3, nous voyons qu'il y a des gens qui disent « Tu es le Saint d'Israël, le véritable » et tout ça. Il les menaçait et pitaient. C'était des gens qui étaient sans doute dans la synagogue depuis 20 ou 30 ans. Tout d'un coup, oh, il est là le Messie, il est là. Et en fait, il n'y a pas l'Esprit Saint dans leur cœur. Ils les fitèrent et menaçaient parce qu'il y avait des démons en eux. Et donc Paul est complètement dans la lignée de Jésus. On ne peut pas dire à Jésus qu'il est mon Seigneur si je parle de l'Esprit Saint. Sinon, on offense Dieu, on offense Jésus-Christ. C'est carré, c'est dur d'entendre ça, mais c'est quand même comme ça. Perdons l'habitude d'offenser Dieu par des fausses prières, des fausses confessions de foi. Ou, Seigneur, je me reconnais comme méchant, je veux que tu laves mon cœur par ta parole et recevoir l'Esprit Saint. Ou, Seigneur, je reste comme je suis, mais je n'ai pas le droit de te prier, parce que je n'ai pas le droit de parler à Jésus, parce que je n'en suis pas digne, j'ai pas reçu l'Esprit Saint, et je n'aime pas sa parole. Au moins, c'est honnête. Je sais dans quel camp je suis. Il y a, au verset 4, chapitre 12, verset 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu. Qui opère tout en tous. À chacun, en manifestation, l'esprit est donné pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre la foi par le même esprit. À un autre le don des guérisons par le même esprit. Regardez l'action du Saint-Esprit et la communion dans le même esprit. À un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses et distribue à chacun en particulier comme il veut. Donc l'Esprit Saint dirige l'Église et les chrétiens et fait varier ses opérations, ses œuvres suivant les personnes, selon son libre vouloir. Selon son libre vouloir. Verset 12, comme le corps est un et a plusieurs membres, comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, l'Esprit Saint, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Et dans Galates, vous avez même un verset, et c'est mis aussi, soit homme, soit femme. Pas de discrimination. Donc, le verset 13 nous montre bien que le Saint-Esprit fait l'œuvre de l'anti-Babel. C'est l'anti-Babel. Le Christ a choisi de venir pour nous conférer un seul esprit. Il n'y a pas différents esprits. Les autres esprits, ça vient du diable. Ça vient du monde. Un seul esprit. Nous reviendrons à l'Ancien Testament, vous allez voir hein, que c'est extrêmement important. À quel moment l'Esprit Saint a-t-il été donné? Ça, c'est un point. À quel moment l'Esprit Saint a-t-il pris autorité? Et qu'est-ce que, dans l'Ancien Testament, Dieu a promis dans ses Écritures, dans ses prophètes, à propos de l'Esprit? On va prendre le temps de prier. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Donne-nous de vivre la vraie foi chrétienne, d'un cœur simple, humble et plein de joie, plein de vérité. Transformé, Seigneur, par ta parole, transformé par ton Esprit Saint. Que tout soit contribué à ta gloire, Seigneur Dieu, dans nos vies. Par le nom de Jésus. Amen. Amen.